jusqu'au jour où, le 24 janvier 2009, je m'effondre ivre-morte à la cérémonie des vœux dans le grand groupe dans lequel j'étais directeur des risques.
Je m'appelle Cécile Coumeau et je vous propose d'écouter une femme qui n'a pas froid aux yeux. Laurence Côté a été alcoolique pendant des années et elle n'a de cesse de raconter sa longue descente aux enfers. À visage découvert, la voix posée. Parce qu'elle refuse d'avoir honte, de se cacher, parce que son histoire avec ses drames et ses fêlures est certes la sienne, mais aussi celle de toutes ces femmes qui sont dépendantes à l'alcool et qui peuvent s'en sortir comme elle.
Leur mot à elles. Le podcast de Ça m'intéresse qui fait entendre la voix des femmes sur leur corps et leur santé.
Dans ma vie, l'alcool est arrivé très tôt et de manière finalement très silencieuse. J'ai commencé à boire très vite, dès l'adolescence. J'avais 14-15 ans. Et pour des raisons qui sont très personnelles, j'ai quitté le foyer familial qui s'entendait pas et dont je trouvais pas ma place en fait. Je souffrais beaucoup dans ce contexte. Et donc très vite, je suis partie et je suis tombée dans des groupes d'amis plus âgés que moi et qui m'ont pris quelque part sous leurs ailes. Et ces amis, qui avaient donc 19, 20, certains travaillaient. Le souvenir que j'en ai, c'est qu'ils avaient de l'argent et eux-mêmes picolaient pas mal. Et moi, j'étais la petite tchiotte. Je suis du nord de la France, donc la tchiotte du groupe. Et il paraît que quand j'avais un petit verre, j'étais très rigolote. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à boire. C'est un alcool, le souvenir que j'en ai, c'est qu'il était plutôt sucré. Et d'ailleurs, je me rappelle des petits morceaux de sucre sur le bord des verres. Et donc, déjà, j'en buvais 4, 5, 6. Le souvenir aussi que j'ai, c'est qu'on passait des nuits blanches à refaire le monde, c'est l'époque. Et vers 5-6 heures, quand je m'allongeais pour dormir, ça tournait dans la tête, donc je me relevais, je ne vomissais pas, mais par contre, donc, je restais debout à attendre que ça passe, et en fait, j'avais une gueule de bois. Et tout cela, si je le raconte aujourd'hui, j'ai 57 ans, bien évidemment, à l'époque, je ne me rendais pas du tout compte de la situation, de cet alcool qui rentrait dans mon corps. C'était donc un alcool festif, c'était pas du tout un alcool solitaire, et ça me permettait de retrouver une place dans une société qui me faisait peur. J'étais très très angoissée, je le suis toujours d'ailleurs, c'est ma nature. Et en plus, j'étais dans un modèle parental qui ne me rassurait pas du tout. Donc effectivement, auprès de ses amis, j'étais rassurée. L'alcool me désinhibait aussi, donc je parlais, je me confiais et j'étais un peu aimée. À l'époque, je ne me souviens pas avoir été alertée sur une consommation excessive qui nous mettait dans des états pas possibles. Bien au contraire, je pense que si j'avais refusé le verre d'alcool qui m'était proposé, les verres d'alcool, eh bien j'aurais pas été intégrée dans ce groupe. Alors même que je me souviens très bien avoir vu un jour une de mes amies s'étaler raide, morte, ivre morte et dégueulant, c'était pas beau à voir quoi. Alors même que j'ai vu cela, de mémoire ça m'a freiné un peu, mais ça m'a pas empêché dans ma période d'adulte de tomber dans la maladie alcoolique. J'ai eu mon premier poste le 5 mai 1986. Pour moi, c'était important, j'allais enfin retrouver une place, mais là, dans une entreprise. Parce qu'en fait, toute ma jeunesse, ça a été compliqué sur le plan du boulot, sur le plan de l'argent. J'ai toujours dû me battre pour payer mes études, etc. Donc enfin, j'étais un peu rassurée. Et j'ai très vite été passionnée par mon travail. J'ai très vite monté les échelons pour devenir juriste d'entreprise, mais ensuite chef du service juridique, ensuite directeur juridique, ensuite secrétaire général. Mais tout cela était accompagné par un alcool très présent dans les entreprises Et cet alcool, finalement, c'est vraiment cet alcool, cet environnement professionnel qui va me faire plonger dans la maladie. Parce que, au-delà de l'intérêt de ces projets, il y avait bien sûr le stress, la course à la performance, les coups bas, le harcèlement. Et donc, cet alcool me permettait de gérer ces angoisses. Parce que j'étais angoissée sur un plan personnel, mais également sur un plan professionnel. Alors j'ai eu cette grande chance quand même d'être accompagnée par mon mari, qui était avocat, mais qui était aussi directeur juridique de la boîte dans laquelle je travaillais. Et ça m'a été d'un grand secours. Pierre m'a beaucoup aimée. Ensuite, il m'a accompagnée sur un plan professionnel et il a fait de moi la femme d'affaires que je suis devenue. Et malheureusement, Pierre, que j'ai connu à 29 ans, va décéder dans mes bras alors que j'ai 35 ans, de manière violente. Le 31 mars 1995, à 5h du matin. Et ça, c'est vraiment la fracture de ma vie personnelle qui fait que je vais, à ce moment-là, me servir de l'alcool qui jusqu'alors était festif. Je vais m'en servir comme un médicament. Je vais le prendre comme un anxiolytique, comme un psychotrope que je me prescris sans ordonnance. Et Pierre, qui était féru d'œnologie, m'avait laissé 300 belles bouteilles de vin. Bah écoutez, je les ai bues en son souvenir. Et en une année, on va dire, j'ai basculé dans cette maladie alcoolique. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que très tôt, j'avais préparé mon cerveau à la dépendance. N'importe qui peut devenir alcoolique. Personne n'est à l'abri. Hein. Mais tout le monde ne deviendra pas alcoolique. Hein. Vous avez des terrains plus ou moins fragiles. Moi, si je reprends mon histoire, je suis née angoissée. Voilà. Mon père était angoissé, mon père était dépressif, mon père était schizophrène. Il ne se soignait pas, mais il n'empêche qu'il m'a transmis tout cela un peu par contagion. C'est pour ça que j'ai voulu quitter le foyer. J'étais perdue. Donc on voit bien que ces fragilités, je les ai moi également, et donc je vais me servir de l'alcool pour essayer d'alléger ces fragilités. Je pense que si je n'avais pas démarré aussitôt mes alcoolisations express, je ne serais pas tombée aussi vite dans la maladie. Parce que ce basculement de cet alcool que vous contrôlez encore et cet alcool que vous contrôlez plus, il s'est fait de 35 à 36 ans. Mais parce qu'il était là et parce qu'on m'avait habituée à boire. Si j'avais pas eu cette histoire, je pense que j'aurais été voir un psychologue. Une aide psychothérapeutique m'aurait été apportée pour dépasser ce deuil. Donc je l'ai très mal géré, mon deuil. Alors, bien sûr, c'est mon histoire, mais une catastrophe comme j'ai connue, ça n'est pas exceptionnel. Hein. Mais quelque part, je vais même plus loin, cet alcool m'a un peu sauvée aussi, hein, parce que j'aurais très bien pu me suicider. Or, cet alcool m'a permis de tenir un petit peu comme une morte vivante. Hein. Ça ne m'a pas empêché aussi de faire des tentatives de suicide à l'alcool avec des médicaments. J'ai fait 3-4 comas éthyliques. Hein. Donc cette histoire, elle est difficile à comprendre. Mais pour s'en sortir, il est bien certain qu'il faut dépasser l'alcool. Et il faut voir ce qui se cache derrière le masque alcool. La préoccupation pour un vrai malade alcoolique, c'est sa dose d'alcool. On est obsédé par l'alcool. Et donc, tout va s'organiser autour de l'alcool. Tout va s'organiser pour que vous puissiez à tout moment ne pas voir ce corps qui tremble ou les sueurs, les nausées, parce que vous êtes en manque. Donc, on s'organise et on sait faire. Pour moi, dans mon sac à main, j'avais toujours une petite bouteille d'orange avec de la vodka. Et lorsque je sentais le craving, ce que l'on appelle cette envie irrépressible de boire, quand je sentais qu'il montait, et on a tous nos heures de craving, hein. Moi c'était à 11h du matin, Eh bien, je partais avec mon sac à main et j'allais boire 2-3 gorgées de vodka bien tassée et ça passait. Et après, comme j'étais avec des repas d'affaires quasiment tous les jours, bah après, il suffisait de s'asseoir. J'étais avec un client ou avec des cadres et je buvais. Et je vous assure qu'on ne calculait pas nos verres. On était plutôt à 2-3 coupes de champagne pour l'apéritif. Et puis après, c'était des très bonnes bouteilles de vin. Et on terminait vers 3h30-4h. Après, moi, je revenais dans mon bureau en taxi. Là aussi, on apprend à gérer les risques. Je ne vais pas reprendre ma voiture de fonction. Donc, je m'en vais à mon bureau. Vers 5-6h, bah, écoutez, j'avais juste assez pour continuer à travailler et pour que ça ne se décèle pas trop. Je prenais un grain de café, je le croquais pour dissiper l'haleine éthylique. Et puis, mais si ça tombe à 20h, j'avais un pot pour je ne sais quelle promotion. Et on était reparti. Et je me faisais reconduire en taxi chez moi à 22h. Et d'après vous, j'étais à combien de quantité d'alcool sur la journée? J'étais à 2-3 bouteilles par jour. C'est ça la malade alcoolique. Malgré tout, j'assumais mes fonctions. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été critiquée en ce qui concerne mes qualités professionnelles. Par contre, les 3-4 dernières années, j'ai été repérée comme une cadre supérieure ayant un problème avec l'alcool. Ça se voyait. Ça se voyait sur mon visage, parce que je n'étais pas... parfois, on se laisse aller. Hein. On n'a pas le courage de laver ses cheveux, on n'a pas le courage de se maquiller. On a parfois des taches sur son tailleur. Hein. On se néglige. Il arrive un moment, de toutes les façons, où vous devenez très conscient. Moi, j'étais devenue consciente déjà depuis 10 ans. Je savais que j'avais un problème d'alcool. Par contre, j'ai essayé de me soigner, mais j'y arrivais pas. J'ai été voir plusieurs fois mon médecin généraliste qui a plutôt évacué le problème de sa main en disant, écoutez, non, c'est pas 3-4 coupes de champagne qui fait de vous une alcoolique. Et puis, ça se voit pas sur votre visage, etc. Moi j'ai eu 3-4 rendez-vous comme ça. Après, comme j'allais pas bien du tout, je lui ai quand même demandé de rencontrer quelqu'un. Il m'a envoyé chez une psychanalyste à Paris, mais cette personne n'était pas du tout appropriée pour moi. Et elle m'a fait perdre des mois. Et d'ailleurs, avec elle, il était interdit de parler alcool. Elle me disait, non, stop, aller chez les alcooliques anonymes, c'est pas mon problème. Voilà. La première question qu'elle m'a posée, c'était à partir de quand vous avez eu vos règles? Bon, ben moi, je regardais avec des yeux de poisson, j'étais pas là, venue pour discuter de tout ça. Donc, si vous voulez, je n'ai pas eu les professionnels compétents pour m'accompagner. Donc, j'étais en détresse, je tenais tant bien que mal mon poste de cadre supérieur jusqu'au jour où, le 24 janvier 2009, je m'effondre ivre morte à la cérémonie des vœux dans le grand groupe dans lequel j'étais directeur des risques. On était 654 supérieurs. Le souvenir que j'ai, c'est qu'il n'y avait que de l'alcool. J'avais décidé de ne pas en boire, mais malheureusement, vous avez toujours une personne qui connaît votre problème, qui va vous inciter à boire, parce que ça, je l'ai compris après. Il est certain qu'une personne qui boit plus que vous vous arrange, ça déculpabilise. Bon, j'ai ma part de responsabilité, mais je pense que la société a également la sienne. Il n'y avait pas de jus d'orange. Moi, j'avais très faim, il n'y avait rien à manger. Et donc, j'ai pris cette coupe de champagne qui est devenue ensuite une bouteille, deux bouteilles, et c'est le pas de côté de trop. Alors, le souvenir que j'ai surtout, c'est d'être resté longtemps par terre. Je ne savais pas me relever. Beaucoup de gens se sont enfouis. Sauf qu'une personne va quand même me relever, va m'emmener dans les toilettes, va m'asperger d'eau, ça j'en ai le souvenir, va me faire sortir par une issue de secours et me reconduire dans mon bureau. Alors mon bureau était au 3e étage, à la direction générale. Je me souviens m'être enfermée dans ce bureau, de m'être allongée par terre et j'ai dû dormir 3-4 heures. Je me suis réveillée vers... donc il devait être 19h. Je n'avais pas encore tout à fait conscience de ce qui s'était passé. À mon avis, j'avais encore 2,5 g dans le sang. Et j'ai pris ma voiture de fonction et je suis retournée chez moi Donc j'ai fait 40 km sur le périph. Et là, c'est une très grosse erreur de la part de l'entreprise. Parce que j'avais fait une ivresse manifeste publique. Personne ne s'est préoccupé de ce que j'allais devenir. Et sur le périph, au volant de ma voiture, j'aurais pu faire un accident. Trois jours après, j'ai été convoqué par le DRH, qui n'a pas été très correct, mais j'ai donc été vite expédié. Donc on a signé une rupture conventionnelle de mon contrat de travail. Par contre, dans l'entretien que j'ai eu avec lui, lui m'a révélé que j'avais été repéré déjà depuis plusieurs années. Son bureau est en face du mien. Mais je lui ai dit, mais monsieur, pourquoi n'êtes-vous pas venu me parler? Vous pensez qu'on est bien dans cet état-là? Mais j'attendais qu'une chose, c'est que vous veniez m'aider. C'était il y a 10 ans. On était en plein l'époque de France Télécom et des suicides. Hein. Eh bien, moi, le nombre de fois où j'ai ouvert ma fenêtre, où j'ai voulu me jeter du 3e étage, je ne l'ai pas fait, parce que je ne voulais pas salir l'image de marque de ce grand groupe, parce que je l'aimais, moi, ce grand groupe. Hein. Et donc, voilà, moi, ce que j'attendais, c'est que ce DRH me dise, « Laurence, vous avez sans doute un problème, on est là pour vous aider. » J'étais prête à l'entendre. Et il m'aurait pris par la main. Il m'aurait dit, on va vous accompagner voir le médecin du travail. Et si ce médecin avait pu me dire, madame, comme on me l'a dit bien plus tard, madame, vous n'êtes pas responsable. Vous êtes tout simplement malade de l'alcool. On va vous soigner. Vous pouvez vous en sortir. Voilà, c'est tout ça qui m'a manqué. Mais ce jour-là, si on réfléchit bien, c'est le plus beau jour de ma vie. Ce jour-là, ma maladie est mise en lumière. Ça m'a sauvée. Donc il y aura toujours un moment pour chaque personne avec ce problème-là. Il y aura un moment où le déclic va se faire. Moi, mon parcours de soins s'est mis en place après très vite et très naturellement grâce à un médecin qui était une femme très compétente. Et elle me voyait au début tous les jours. Vous savez, ce qui est formidable dans cet alcool, c'est qu'une fois que vous arrêtez de le consommer, très vite, votre corps va se transformer et va se bonifier. Les taches rouges vont disparaître. Vous allez très vite mieux dormir, parce qu'on va vous donner aussi un anxiolytique pour vous accompagner. Ces tremblements vont très vite s'arrêter. Donc tout ça, pour une femme notamment, c'est extrêmement encourageant. Le visage qui se dégonfle, on recommence à s'aimer, à se regarder dans la glace. Hein. Et donc cette dame a très vite aussi mis en place un suivi psychologique. Mais le gros travail psychothérapeutique que j'ai fait sur moi, qui est en fait un travail d'introspection, et qui est de répondre à la question « pourquoi je bois ?», ça je l'ai fait bien plus tard. Je l'ai fait 4 ans après avoir arrêté complètement de boire. J'étais dans l'abstinence, hein, ça allait bien. Sauf que 4 ans plus tard, je vais resubir un drame épouvantable dont je parle peu, mais je vais vous le dire. Ma petite sœur Marie-Diane, qui a 8 années de moins que moi, va mettre fin à ses jours. Voilà. Et malheureusement, elle a voulu m'appeler et j'ai pas pu la prendre. Et donc, c'est violent. Donc de nouveau, une mort en pleine figure dont je me sens plutôt responsable. Donc là, j'ai senti que j'allais reboire. J'appelle un médecin addictologue et cette médecin tout de suite me prend. Et en fait, je vais travailler le deuil de Marie, mais par le deuil de ma petite sœur, je vais travailler le deuil de mon mari. Et je vais après poursuivre sur des souffrances beaucoup plus intimes qui me sont revenues en pleine figure. Vous savez, c'est un peu comme parfois le diable qui sort de sa boîte et que j'avais, moi, enfoui profondément, sans doute pour me protéger. Donc je vais vraiment commencer ce travail que l'on fait dans le secret du cabinet d'un professionnel et que l'on garde après pour soi, mais qui fait qu'aujourd'hui, droit dans les yeux, je puis vous dire que je suis définitivement guérie de ces souffrances parce que j'en ai compris le sens, que je vis avec, que j'ai redonné du sens à tout ça et que je me sens bien. Et si j'accepte d'ailleurs de témoigner et de raconter mon histoire, je le fais parce que je sens que c'est nécessaire. Je sens que les femmes qui m'écouteront se retrouveront dans une petite portion de mon histoire et pourront, s'il le faut, travailler la leur si elles ont un problème avec l'alcool. Très souvent, la femme qui est devenue alcoolique a un parcours extrêmement chaotique et douloureux. Et c'est quasiment toujours les mêmes thèmes que l'on parle ensemble. C'est la mort, donc les deuils. Ça peut être, et c'est souvent, le deuil d'un enfant. Alors, ça peut être un avortement qui a été mal supporté. C'est aussi les viols des femmes, les incestes sont très courants également. Après, les violences parentales, donc une déstructuration du foyer, mais avec des violences physiques et psychiques. Et enfin, le harcèlement physique, sexuel, moral. L'alcoolisme féminin n'est pas du tout comparable à celui masculin. Une femme qui boit, c'est pas beau. Une femme qui se bat, c'est pas beau. Alors qu'un homme qui boit, qui se bat, c'est viril. Après, la femme qui boit est souvent qualifiée de femme facile. Et c'est peut-être un peu vrai. Il est certain que quand on est alcoolisé, on sait plus trop ce qu'on a fait de ses soirées. Et puis la femme, elle a moins souvent aussi droit à la parole, même si ça bouge beaucoup ces dernières années. Donc tout ça pour dire, on a besoin, nous, les femmes, de pouvoir en parler entre nous. On a besoin de lieux d'expression pour aller au bout de nos ressentis, au bout de nos émotions, au bout de nos partages. Et parce que aussi, j'ai souvent constaté qu'un homme alcoolique ou qui se soigne pour un problème d'alcool est souvent très dur par rapport à une femme alcoolique. D'où mon idée de développer des endroits où nous, les femmes, nous puissions partager sans jugement, sans la peur du regard de l'homme. Et pour durablement se dire « je suis abstinente, je n'ai aucune tentation et ça n'est que du bonheur pour moi », eh bien il faut passer par ce travail de psychothérapeutique. C'est indispensable. Dans mon histoire, très sincèrement, je n'ai pas été éduquée, informée et ensuite alertée sur mon problème d'alcool. Le jour où je l'ai été, il était trop tard, on m'a licenciée. Alors, bien sûr que ça se voyait. Mais je pense aussi, parce qu'après j'en ai discuté avec mes amis, avec ma famille. Alors, ils disent tous, mais si, on avait vu quand même, t'avais une sacrée descente. Mais jamais ils n'ont imaginé que c'était tous les soirs comme ça. Et je les crois, et je les crois. Je les pense sincères. Donc, cet entourage doit également se faire aider. Donc, il faut que cet entourage aille voir un addictologue pour déjà se faire expliquer ce qu'est la maladie ou les premiers signes d'un alcoolisme et se faire accompagner. L'addictologie est une science médicale qui n'est pas vieille. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a le gros problème du délai d'attente pour être pris en charge. Et après, il y a des associations d'entraide, mais elles sont vieillissantes, elles sont moralisatrices, et elles ne sont pas efficaces. Heureusement, il y a des exceptions. Mais je pense que c'est tout le monde de l'addictologie qui doit aujourd'hui progresser dans son approche de la maladie alcoolique, qui soit une approche beaucoup plus dans l'écoute du patient, dans ce que désire le patient. J'ai créé un groupe que l'on appelle « Moi sobre ». Je l'ai créé le 4 janvier, on est déjà 735 personnes. Et ce groupe permet à toute personne de se poser la question avec sa relation, mais également de trouver des petites astuces pour dire « non, moi je bois pas ». Je bois pas parce que j'ai décidé de faire un break. Et nous inculquons cette règle qui maintenant est connue, maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Ça en fait 10 par semaine. Donc on a mis en place un petit agenda, lundi, mardi, mercredi. Donc les gens cochent. Et de plus en plus maintenant, les gens disent, non, je fais partie d'un groupe. Voilà. Donc c'est une petite initiative citoyenne. Et je pense que ça commence à faire des émules. Et ça nous permet de faire une espèce de prévention efficace, extrêmement bien accepté, y compris par les alcooliers, parce que c'est pas du tout contre l'alcool. Moi, je continue à dire j'aime le vin, j'aime le champagne. Malheureusement, c'est bien dommage. je n'ai plus le droit d'y toucher et j'aurais beaucoup aimé, il y a 35 ans, avoir été prévenue sur la maladie alcoolique. Je pense qu'on est enfin en train de casser un tabou, celui de l'alcoolisme, et de surtout changer le regard de la société sur une personne qui souffre. On est quand même une personne sur 10 en France à avoir un problème d'alcool, c'est-à-dire ou être malade, comme j'ai pu l'être, ou être dans l'excès. Mais ça se soigne. Donc il faut en parler à visage découvert. C'est une maladie, il ne faut pas se cacher. Il faut en parler, il faut donner de l'espoir, il faut amener les gens à dépasser le regard souvent négatif que la société a sur une personne qui a un problème, et on peut s'en sortir.
Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à recommander ce podcast autour de vous et à le noter sur les plateformes dédiées. Et puis rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de L'Hormo à Elle.